Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. La route est longue, mais la pente est forte, disait naguère l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Cela fait aujourd'hui une semaine que la France se déconfine progressivement et le bout du tunnel semble encore loin. Les commerces sont rouverts, les citoyens sont ressortis, mais en ce qui concerne les musées, la décision se prend au cas par cas. L'actuel Premier ministre Édouard Philippe a bien annoncé la réouverture des petits musées, mais la définition est très vague et l'organisation pas simple du tout. Ce vendredi pourtant, un musée parisien a de nouveau pu accueillir du public, c'est l'un des tout premiers de la capitale. Il s'agit de l'Institut Giacometti dans le 14e arrondissement. Notre reporter Fanny Blechner était sur place. Reportage.
Tout commence devant l'Institut, dans la rue, derrière un cordon de sécurité. Des marquages au sol indiquent les distances à respecter le temps de faire la queue. Les billets ont été réservés en ligne, c'est obligatoire et un créneau est ainsi réservé. Une fois sur le pas de la porte, chacun est invité à se désinfecter les mains. Les masques ne sont pas fournis, mais indispensables. L'Institut accueille 10 personnes au maximum et le temps de visite est limité à 20 minutes. Une organisation méticuleuse pensée depuis le début du confinement, mais qui n'est pas tellement éloignée du fonctionnement habituel du lieu, explique sa présidente Catherine Grenier.
Nous avions déjà, et c'est ce qui a rendu pour nous plus facile, cette réouverture rapide, un système de contrôle des jauges, puisque ce lieu a été créé pour proposer aux visiteurs un confort de visite en réduisant beaucoup le public qui est là au même instant pour que ça puisse leur donner à la fois, bien sûr, plus de fluidité dans leur visite et aussi une relation beaucoup plus intime avec les œuvres.
Du matériel a dû être commandé, des chartes du visiteur ont été rédigées, le personnel du musée est réaffecté sur les 350 m² des lieux. Restait une crainte que le public ne soit pas au rendez-vous.
Quoi qu'il en soit, pour nous, c'était très important d'ouvrir. On a cette idée que la culture doit être là, avec la société, en tout moment. Donc pendant le confinement, nous avons fait beaucoup de productions numériques, en ligne, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, alors qu'une partie de la société est déconfinée, eh bien, nous sommes là, même s'il y avait très très peu de public. Mais en fait, nous avons eu la très bonne surprise de voir que les 3 premiers jours étaient immédiatement pleins.
Ce vendredi, les visiteurs étaient bien là. Parmi eux, Benoît, historien de l'art et enseignant-chercheur.
J'aime bien visiter une exposition par semaine. Après 8 semaines de confinement, il y a comme un manque. Et c'est le lieu qui est le plus proche de mon domicile et qui réouvre le plus tôt, donc c'était une aubaine. En même temps, il y a moins de monde, donc c'est bien, mais non, j'espère que le virus va disparaître au plus vite, parce que ce n'est pas des conditions optimales. J'avoue que le thème de l'exposition m'intéressait, donc je suis venu aussi pour ça.
Cette exposition, elle est intitulée « À la recherche des œuvres disparues », datant des années 20 à 30, une phase d'expérimentation pour le jeune artiste. Christian Allendette, directeur artistique de l'Institut, nous en donne un aperçu.
Dans cette période, Giacometti a réalisé à peu près 150 œuvres, et sur ces 150 œuvres, il y avait 50 œuvres qui n'existent plus aujourd'hui, mais dont on a la trace soit dans des photographies, soit dans les carnets de l'artiste où il dessine toutes les œuvres qu'il a réalisées pendant cette période-là. Donc on a décidé de travailler sur ce catalogue d'œuvres disparues en présentant à la fois les archives, des œuvres de la même période qui sont dans le même style ou des reconstitutions de 3 œuvres qui ont été exposées du vivant de Giacometti et qui ensuite ont disparu.
On peut par exemple admirer une œuvre de grande dimension, l'Oiseau Silence, une sculpture ressemblant à une cage de près de 2 mètres. Dans une autre pièce, une famille au complet s'attarde devant des photos. Alice et Guillaume sont venus avec leurs 2 filles, Iris et Lila, âgées de 5 ans et 2 ans, qui ne vont pas à l'école en ce moment.
Comme elles sont encore très petites, on ne tient pas à surcharger les établissements scolaires.
On est encore très petites, nous deux.
Bah oui,
mais moi, je ne suis pas très petite.
Toi, tu es moyenne petite.
Depuis le confinement, ils leur proposent des journées thématiques sur des couleurs et des pays.
Ah ben, ça fait une belle continuité, puisqu'on a beaucoup parlé d'art, de danse, de musique, de peinture, de sculpture. Là, c'est génial de pouvoir, dès le déconfinement, profiter d'un établissement artistique.
En famille, en duo ou en solo, vous avez jusqu'au 21 juin pour découvrir l'exposition temporaire de la Fondation Giacometti.
Et notez que l'Institut Giacometti est ouvert du jeudi au dimanche pour le moment. Attention, comme vous le rappelez Fanny, la réservation est obligatoire et bien sûr, pensez à venir masquer. Sur la quatrième de couverture, il est écrit qu'Amrita Shergill est à l'Inde ce que Frida Kahlo est au Mexique. Et en refermant le livre, on se dit qu'on ne nous a pas menti, car cette relative inconnue de l'histoire de la peinture est absolument fascinante. Par ses talents artistiques, picturaux et musicaux, par son cosmopolitisme, génétique, culturel, intellectuel, par sa famille, si harmonieuse puis si désunie, par ses allers-retours entre l'Inde et l'Europe dans un XXe siècle ébranlé par les guerres, mais aussi et peut-être surtout par sa liberté et son intensité, elle ne pouvait qu'intéresser une romancière et ses lecteurs. Amrita de Patricia Reznikov est parue chez Flammarion et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Patricia Reznikov.
Bonjour.
Ou peut-être devrais-je dire bonjour Iris, parce que Iris, la narratrice de ce roman, celle qui dit « je », c'est un petit peu votre double littéraire.
C'est vrai, c'est un peu mon double littéraire, mais si elle partage une grande partie de ma sensibilité, elle n'est pas moi, pour autant.
Mais elle a une formation d'artiste, un petit peu comme vous. Vous avez fait les Beaux-Arts et c'est aussi à travers ce prisme-là que vous nous faites entrer dans votre personnage.
Oui, c'est vrai que c'est ça qui m'a intéressée dans un premier temps. L'idée d'aborder une peintre par le fait que j'avais fait la même école qu'elle, quelques 80 années plus tard, et de l'aborder par l'intime, par l'intime du travail, par l'intime du regard. Et il me semblait que j'avais là un petit avantage, je dirais, sur une biographe classique qui l'aurait appréhendée de l'extérieur.
Alors c'est Iris qui va mener l'enquête et partir sur les traces d'Amrita Shergill. Et dans le deuxième chapitre, on découvre comment Iris a rencontré Amrita. Un petit tableau acheté chez Drouot, au fameux hôtel des ventes parisien. Un petit tableau qui représente une femme en sari vert avec un voile vermillon. Une petite toile indienne qu'un ami d'Iris va reconnaître comme un Amrita. C'est réellement comme ça que vous avez rencontré votre personnage, Patricia Reznikov ?
Non, ça je l'ai imaginé, bien sûr. J'aimerais pouvoir avoir un tableau d'Amrita chez moi. Mais alors, j'allais vous raconter cette anecdote à la fin, mais puisque nous commençons par cela, en réalité, Amrita est venue à moi à la fin de mon roman par le biais d'un dessin que j'ai pu acheter sur eBay, pour tout vous dire. Et c'était une très très belle... fin d'aventure avec elle. J'avais travaillé pratiquement 2 ans sur sa vie, sur son œuvre, et puis tout à coup, ce petit dessin s'est présenté à moi. Donc je ne suis pas l'heureuse propriétaire d'un tableau, mais j'ai un petit dessin.
Eh bien, c'est dommage pour vous, mais comment est-ce que vous avez fait connaissance avec ce personnage, qui n'est quand même pas, pour le grand public, un peintre extrêmement connu ?
C'est vrai qu'elle est même, on peut dire, quasiment méconnue en Occident. Moi, je l'ai connue d'une manière particulière, c'est qu'on m'a parlé d'elle il y a très longtemps aux Beaux-Arts, justement. Un de mes professeurs m'a parlé d'elle, mais de manière très très elliptique, très parcellaire. On savait presque rien d'elle, il n'y avait pas de documents. À l'époque, Internet n'existait pas, il n'y avait pas de biographie. Donc, je l'ai portée en moi pendant des années, en l'oubliant, bien sûr, pendant un certain temps. Puis, elle s'est rappelée à moi, comme cela. Et un jour, je crois que c'est en 2014, j'ai tapé son nom sur Internet et j'ai vu qu'on pouvait voir non seulement certaines de ses toiles, mais qu'une biographie avait été écrite en Inde par une auteure indienne et en anglais. Je l'ai donc achetée et je l'ai lue. Et là, il m'a paru évident que je devais m'emparer de sa vie et faire en sorte qu'elle soit reconnue ici, en Occident et en France tout particulièrement, alors qu'elle, là où elle a étudié pendant 5 ans aux Beaux-Arts.
Oui, c'est vrai que sa dimension romanesque est assez impressionnante, peut-être pour tout romancier, mais peut-être encore plus pour vous, effectivement, Patricia Reznikov, car vous avez quand même beaucoup de points communs avec ce personnage, quelques différences aussi, hein, en tout cas j'espère pour vous. On va commencer peut-être par la dimension qui semble peut-être la plus évidente, ce métissage linguistique et culturel. Vous-même, vous êtes franco-américaine avec des origines russes. Amrita, elle, est née en Hongrie en 1913, à Buda, donc l'un des quartier qui formera plus tard la ville de Budapest. Elle est née d'un père indien de confession sikh et d'une mère juive de Hongrie, mais catholique, et avec en plus des origines françaises. C'est un mélange qui, pour un lecteur d'aujourd'hui, semble complètement improbable.
Oui, je pense que pour elle-même, c'était tout aussi improbable. Et je pense que le secret de sa recherche intérieure et artistique a été d'essayer de réunir ses opposés absolument fou, d'essayer de se fabriquer une unité. C'est évidemment une richesse extraordinaire d'avoir des origines aussi hétérogènes, mais c'est aussi un combat constant pour essayer de se reconstituer, de s'unifier.
Oui, c'est vrai qu'on se dit que c'est pas toujours facile à vivre, en particulier dans cette Inde de la première moitié du XXe siècle. Vous écrivez par exemple, ils n'étaient pas britanniques, en parlant de la famille d'Amrita, ils n'étaient pas britanniques, ils étaient européens, indiens et eurasiens de sang mêlé. Dans quelle mesure ce statut ambigu les a-t-il gênés? Et vous ajoutez, la position d'érudits et d'artistes les a sans doute protégés.
Oui, parce qu'Amrita a eu une vie extraordinairement libre pour l'époque, et c'est assez compliqué de comprendre dans quelle mesure ses origines lui ont permis d'avoir ce statut. Lorsqu'ils ont vécu en Inde britannique, et notamment à Simla, qu'on évoquera peut-être après, ils n'étaient pas des Indiens, des Anglais et des Britanniques qui vivaient en Inde, ils n'étaient pas non plus complètement Indiens, en tout cas, Marie-Antoinette, sa mère, ne l'était pas du tout, Amrita n'était qu'à moitié. Quant au père, Umrao Singh, il était indien, mais il était sikh, et les sikhs sont une espèce de grande minorité, si j'ose dire, de l'Inde. Ils n'étaient pas hindous. Donc ça les mettait dans une espèce de case tout à fait improbable, et je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour vivre avec toutes ces complications, ces contradictions et ces richesses.
Voilà, ce qui en fait évidemment, là encore, une famille extrêmement romanesque, et c'est vrai que les parents baignent vraiment dans ces milieux intellectuels et artistiques. Sa mère, que vous évoquiez à l'instant, Patricia Reznikov, qui s'appelait donc Marie-Antoinette, c'est une chanteuse lyrique, et elle aussi, on se dit que c'est un personnage de roman extraordinaire, un personnage très mondain, un personnage très solaire. On pourrait écrire sur Marie-Antoinette un aussi beau roman que sur Amrita.
Oui, vous avez raison, et j'aime beaucoup Marie-Antoinette. Je pense que c'est une de ces extraordinaires femmes d'une époque qui ne permettait pas aux femmes de s'épanouir. Et je pense avant tout que c'est une victime en fait de son destin, de son talent. On la voit assez bien chez Proust. C'est une femme extraordinairement bien éduquée, qui sait peindre, qui sait parler plusieurs langues, qui chante magnifiquement bien. Elle ira suivre des cours en Italie, des cours de chant avec de grands maîtres. Mais malheureusement, elle va épouser cet homme à qui tout l'oppose, qu'elle a certainement profondément aimé, mais qui ne lui permettra pas d'avoir une vie épanouie en tant qu'occidentale. Et elle va, je pense, s'ennuyer passer des années dans la frustration à Simla, notamment cette petite bourgade érigée en capitale du Raj, capitale provisoire, saisonnière du Raj, ce petit bastion mondain de l'Inde britannique. Je pense qu'elle va s'y ennuyer terriblement.
Et cet homme, c'est Umrao, donc un sikh, issu d'une famille d'aristocrates du Punjab, alors une sorte d'armoire à glace avec un turban et une longue barbe, et c'est lui aussi un intellectuel, c'est un érudit, c'est un homme qui étudie énormément et qui étudie en particulier les livres. Il a une bibliothèque absolument incroyable.
Oui, il a une bibliothèque extraordinaire. Il étudie et traduit des textes anciens, du sanskrit, de l'ourdou. C'est un homme qui cherche des vérités intérieures. Et c'est tout le contraire de Marie-Antoinette, qui est une grande mondaine, un peu pétulante et frivole. Et alors que lui ne cherche que la sève, il est végétarien, il a cette propension extraordinaire aussi à faire de la photographie et à se photographier lui-même. C'est-à-dire que toute sa vie, il fera des autoportraits, parfois quasiment nu, parfois après avoir jeûné. On essaie de comprendre les motivations intérieures de ce personnage. Je crois qu'il avait un esprit éminemment scientifique. Il avait également des télescopes sur sa terrasse. Il aimait regarder le ciel. C'est un esprit curieux de tout et extraordinairement inspirant pour la jeune Amrita.
Donc il se photographie lui-même, effectivement, il photographie aussi sa famille, et c'est assez heureux pour vous, parce que les photos familiales jouent vraiment un grand rôle dans votre récit, dans votre narration. Souvent, c'est d'elle que vous partez pour nous raconter le destin d'Amrita, de sa famille, de sa sœur Indira aussi. Un exemple, nous sommes page 163 du livre.
Parfois, sur ses clichés, Amrita lit sagement. Parfois, elle dessine. Elle fait le portrait d'un invité. D'autres fois, elle regarde par la fenêtre d'un air rêveur. Souvent, elle nous fixe dans les yeux, sans ciller. Mais elle est devenue quelqu'un d'autre, une nouvelle personne, une femme. On sent poindre chez elle une sensualité puissante, dans le plein de ses bras, la courbe de ses seins, la finesse de son cou. Quelque chose de mystérieux et de solaire à la fois sourd de ses clichés vieux, de presque 100 ans, et nous éclaire, comme une fenêtre brusquement ouverte. Même dans ses poses réfléchies, même dans les photos où elle semble s'ennuyer, elle est vivante. Une expression grave et facétieuse affleure dans son regard. Quelque chose de contradictoire, pudeur et provocation, joie et souffrance. Vertige de la voir ainsi à l'aube de sa vie, saisie, fixée pour toujours. Sur deux de ses photos, je reconnais le même fauteuil en bois, aux accoudoirs recouverts de cuir, dans le genre Chesterfield, le même tissu tendu derrière pour faire décor. Sur l'une, Amrita est seule, royale, souriante, les bras nus recouverts d'un voile diaphane, les jambes croisées. Sur la deuxième, elle est plus énigmatique, intérieure, plus sage. Mais derrière la toile tendue, apparaissent les yeux rieurs d'Indira, qui tient le tissu. Je l'avoue, je me perds dans la multitude de ces instantanés qui évoquent une vie inconnue de moi, fantasque, insaisissable, tout comme je sens que je vais m'égarer dans la multitude de dessins, croquis, toiles et lettres et commentaires émanant d'elle. Cette femme nouvelle, sans parler de ses constants voyages, ses multiples adresses, ses appartements, la tête me tourne. Comment saisir une vie? On n'est condamné à n'en saisir que des miettes. Soudain, ces photos sont un évident témoignage de la disparition programmée de toute chose. Je trouve douloureux de les scruter. Et pourtant, elle a vécu comme une tigresse, comme une forcenée. Il doit bien y avoir quelque chose, quelque part, qui reste de tout cela.
Et c'est souvent ainsi, hein, Patricia Reznikov, dans votre roman. Alors souvent, les écrivains font naître des images à partir des mots. Vous faites l'inverse, hein. Vous partez des images pour écrire. Vous décrivez les tableaux, on va en parler dans un instant. Vous décrivez aussi beaucoup donc de photos qui sont le point de départ de votre narration et surtout de beaucoup de questionnements, de beaucoup d'interrogations. Vous partez d'un petit détail vestimentaire, vous partez d'une posture, d'un sourire ou au contraire d'une absence de sourire pour imaginez le destin de vos personnages. D'où vient, Patricia Reznikov, votre fascination pour la photographie?
Alors, c'est amusant que vous me posiez la question parce qu'en fait, en tant que plasticienne, que peintre, pendant très longtemps, je me suis méfiée de la photographie, justement. Et je n'étais pas la seule parmi les étudiants que je fréquentais aux Beaux-Arts. Il y avait cette méfiance de la photo qui nous paraissait non pas un art, mais une sorte de passe-temps facile. Il suffisait au fond d'appuyer sur un bouton, alors que nous, les peintres et les dessinateurs, nous devions travailler notre geste, travailler notre regard pendant des années et des années sans relâche. Et la facilité apparente de la photo nous faisait prendre cet art pour quelque chose d'assez méprisable, en fait. Et en fait, je me suis intéressée à la photo petit à petit, et notamment pour mon précédent roman.
Le songe du photographe.
Le songe du photographe. Puisque je suis allée à la rencontre de l'Europe centrale disparue, et notamment de l'Europe juive, des juifs d'Europe centrale disparue. Et pour cela, naturellement, j'ai dû passer par la photo. Il n'y avait pas d'autre voie. Et la photo m'est apparue comme un médium absolument extraordinaire, puisque c'était une espèce de choses vertigineuses qui nous permet de retrouver le contact direct avec des mondes disparus. Et mon intérêt pour la photo date en fait d'il y a quelques années. Et là, dans ce cas, il est évident que la photo était indispensable et j'ai eu la chance de pouvoir trouver deux volumes d'ailleurs extraordinaires, liés par le neveu d'Amrita, qui vit encore en Inde, qui s'appelle Vivan Sundaram. Il a rassemblé il y a quelques années des photos, des lettres, des documents. Et j'ai eu le privilège, en tant que chercheuse, de me plonger dans ces documents très intimes. Et c'est vrai que c'est complètement fascinant de voir cette petite fille grandir parmi les siens, dans des paysages très variés, parce que parfois il s'agit de la Hongrie, parfois c'est Paris, parfois c'est différents endroits de l'Inde. Et de la voir évoluer, grandir, s'affranchir de sa famille, chercher sa voie. Tout ça dans des clichés, en fait. Parce qu'en fait, il y a assez peu de choses d'elle. Il y a bien sûr ses peintures et il y a des lettres qu'elle a écrites. Malheureusement, les lettres qu'elle a reçues ont été brûlées par ses parents par la suite.
Alors, il y a
donc il nous reste assez peu de choses d'elle.
Alors, il y a effectivement aussi les peintures, les tableaux. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire le style pictural d'Amrita, Patricia Reznikov?
Alors, le premier style pictural d'Amrita, c'est un style académique assez classique, qu'elle a très bien maîtrisé très vite. Elle a été très précoce et très douée lors de ses années Beaux-Arts. Elle a d'ailleurs exposé au Grand Salon. Elle avait 19 ans. Donc, elle a été reconnue très tôt comme excellente élève. Puis, elle était à Paris de 1924 à 1929. de 1929 à 1934, excusez-moi, pendant 5 ans. Et ensuite, en 34, elle retourne en Inde et elle se dit, très curieusement, elle a fréquenté l'avant-garde, elle a à la fois une sorte de double, comment dire, apprentissage académique et avant-gardiste, et elle se dit qu'elle va mettre tout cela à profit pour, comment dire, mettre en valeur la peinture de son pays, qu'elle estime en très mauvaise posture, puisque à l'époque, il y a peu de grands peintres fondamentalement indiens, il y a beaucoup de peintres anglo-britanniques, en quelque sorte, enfin indo-britanniques, qui font ce qu'elle pense être une mauvaise peinture de l'Inde, et elle veut rendre hommage à la peinture traditionnelle. Alors elle va voyager en Inde pendant environ une année et se familiariser avec les miniatures d'origine moghole, les peintures des grottes d'Ellora et d'autres. Et voilà, elle va se donner une mission. Avec tout le talent et le génie même qui sont les siens, elle va redonner vie à la peinture indienne et lui redonner un nouvel élan.
Alors vous citez plusieurs tableaux à travers votre roman. S'il n'y en avait qu'un, quel serait celui que vous voudriez nous décrire, nous faire partager par la voix des ondes ?
C'est difficile de choisir. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est assez extraordinaire. C'est le portrait d'une jeune mariée. C'est un tableau extraordinairement simple. Le fond est vert. La mariée est habillée toute de rouge, puisque c'était une couleur en Inde qui porte bonheur. Elle a une petite couronne en or sur la tête et un voile rouge. Et elle occupe pratiquement tout le tableau, mais elle est là, mais elle est inexistante en réalité. Elle n'est pas avec nous, son regard est vide. Elle est ailleurs. On sait ce que sont les mariages arrangés en Inde. On imagine que la jeune femme ou la jeune fille est très jeune. Et on imagine toute l'espèce de désarroi qui est le sien. Et cette vacuité du regard, mange tout le tableau. C'est une image assez extraordinaire.
Il y a aussi un autre regard que le lecteur découvre sur la jaquette de votre livre, et c'est le regard d'Amrita elle-même sur cette photo. Elle nous regarde les yeux dans les yeux. Si j'ose dire, à quoi est-ce qu'elle ressemblait, Amrita ? Parce que vous évoquez aussi quelques autoportraits, hein, donc des tableaux qu'elle a peint elle-même, évidemment. Est-ce qu'elle était très belle aux yeux des canons de l'époque, dans l'Inde de cette première moitié du siècle ?
Je crois qu'elle était plus attirante, plus fascinante, plus belle. Elle avait des traits réguliers, elle était donc mi-hongroise, mi-indienne. C'était une beauté brune, avec un regard très fort, très, très fascinant, une grande sensibilité. Alors c'est amusant parce que sa sœur Indira avait des traits, si j'ose dire, presque plus occidentaux. Et ce n'est pas en cela qu'elle était plus belle, mais il se trouve qu'objectivement, elle avait des traits plus réguliers. Elle ressemblait davantage à une actrice de cinéma. Amrita, elle, est un peu moins classique, mais elle a cette force, elle, qui nous attire complètement. On le voit d'ailleurs sur la couverture. Elle a environ une quinzaine d'années. La photo a sans doute été prise en Hongrie. Et elle a cette espèce de sensualité en elle qui explose, cette intensité du regard. On sent qu'elle a besoin de vivre tout très vite, très fort. Si le temps lui était compté, d'ailleurs elle le disait que le temps lui était compté. Sinon c'était une jeune femme pas très grande. D'après les photos, elle était très bien faite, très très mince et ronde à la fois, avec une gorge généreuse, une grande grande sensualité.
Oui, une grande sensualité, une grande intensité, effectivement vous le disiez. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle en a fait tourner des têtes, hein, en particulier dans les salons qu'elle a fréquenté. En plus, c'est quelqu'un qui sait parfaitement briller en société.
Oui, elle sait tout faire. Elle sait parler plusieurs langues, elle sait écrire en plusieurs langues, puisqu'elle parle évidemment le hongrois, qui est sa langue natale. Elle a appris très rapidement l'anglais en arrivant en Inde. Elle a appris le français pendant ses 5 années à Paris. Et elle était en train d'apprendre le sanskrit au moment de sa mort. Elle écrit dans les 3 langues très très naturellement. Elle sait tout faire, elle sait jouer du piano magnifiquement, à tel point d'ailleurs qu'à un moment elle hésitera entre une carrière pianistique et une carrière de peintre. Elle sait tout faire, mais en même temps, elle se refuse à être une mondaine. Elle a un regard très, très acéré sur les choses. Elle sait être très, très, très dure, hein, très, très tranchante. En même temps, c'est, je crois, quelqu'un qui a une grande fragilité intérieure, qui se cherche sans cesse, qui essaie de comprendre qui elle est. Et puis, comme vous le dites, elle fait tourner les têtes. Et elle, d'ailleurs, elle ne résiste à pas grand-chose. Au fond, séduire le fiancé d'une camarade ne la gêne pas plus que cela. Elle est libre. Elle est absolument libre. Et en cela, d'ailleurs, je trouve qu'elle se comporte comme beaucoup d'hommes peintres de son époque. C'est-à-dire qu'elle s'autorise absolument tout ce qui peut servir son art. Je crois que la grande affaire de sa vie, c'est d'abord sa peinture. Et tout ce qui peut favoriser l'émergence de son talent, elle se l'octroie.
Vous évoquez, Patricia Reznikov, cette sérénade mélancolique de Tchaïkovski, jouée par Yasha Heifetz, car Amrita, vous le disiez, est fille de musicienne, hein, elle est elle-même mélomane et musicienne, c'est vraiment une excellente pianiste, on peut dire que c'est une artiste jusqu'au bout des doigts.
Oui, absolument, c'est vrai, maintenant que vous me dites, ses mains savaient aussi bien jouer du piano, elle jouait même du violon, je crois, que peindre, c'est une artiste complète.
Oui, peindre pour elle, c'est plus qu'une vocation, et même jouer de la musique aussi, qu'on a l'impression que l'art, c'est vraiment son oxygène. C'est par l'art qu'elle atteint cette intensité et cette liberté qu'on évoquait à l'instant.
Oui, c'est par l'art qu'elle a réussi à trouver une unité en elle et qu'elle s'est sans doute échappée de cette famille compliquée, trop intense, assez déstabilisante, d'autant plus qu'on sait... On comprend assez rapidement que Marie-Antoinette a une raison un peu, comment dire, une dans la raison va chanter en fait assez tôt, et elle va finir assez folle vers la fin de sa vie.
On dirait des nouvelles sur RFI avec la romancière Patricia Reznikov pour son nouveau livre Amrita, paru chez Flammarion, un texte à la croisée du roman, de la biographie et du récit intime. Est-ce que vous avez fait comme Iris, la narratrice Patricia Reznikov? Vous avez couru les bouquinistes et les bibliothèques, plongé dans sa correspondance, examiné les tableaux? Il y a un vrai travail d'enquête, d'archiviste aussi derrière ce roman?
Oui, bien sûr, il y a un gros travail. Alors, chez les bouquinistes, je n'aurais malheureusement pas trouvé grand-chose. Mmh. C'est plutôt Internet qui m'a servi. Et puis, ces deux volumes de correspondances, de tableaux, de dessins et de photos. Également, la biographie indienne, celle qui existe à ce jour, mais qui est formidablement enseignée, complexe, mais très, très, presque trop fouillée. Donc, il a fallu que j'élague beaucoup. C'était écrit essentiellement pour un public indien. Je voulais juste dire une chose à propos de l'extrait que vous avez passé, c'est absolument magnifique. Il crachote juste assez pour que l'on se sente à Simla, oui. Avec le non pas l'électrophone, je cherche le mot, vous savez, l'appareil de l'époque.
Le phonographe.
Le phonographe, voilà, merci. On imagine Amrita à Simla, dans sa petite maison, dans les contreforts de l'Himalaya, dans cette petite ville improbable de Simla, écoutant un jour de mélancolie ce disque qui cracherait un peu. Voilà, donc merci de nous avoir remis dans l'ambiance, c'était magnifique.
Et c'est vrai que nous-mêmes, on a vraiment envie de se rendre précisément à Simla, donc dans le nord-ouest de l'Inde, une petite ville coloniale marquée par le goût occidental. Est-ce que vous y êtes allé vous-même, Patricia Reznikov? Est-ce que vous avez eu besoin de quitter les livres et la correspondance d'Amrita pour aller la rejoindre physiquement dans les lieux de vie qu'elle a traversé?
Alors c'est une question un peu complexe. Il était prévu que j'y aille. Le voyage en Inde devait se faire et pour des raisons personnelles, finalement, ça n'a pas été possible. Et j'ai rebondi en utilisant cette infortune, en quelque sorte, en me disant qu'au fond, la littérature servait à cela. Plutôt que de faire un reportage, ce qui aurait peut-être été davantage le cas si j'y étais allée, j'allais faire une œuvre d'imagination et une œuvre davantage poétique et me rapprocher d'elle par d'autres moyens. Je crois que, en fait, ça a servi les livres, certainement. Mais il faut expliquer aux gens qui nous écoutent ce qu'est Simla. Simla, c'est une petite ville dans les contreforts de l'Himalaya, dans l'Himachal Pradesh, que l'administration britannique du Raj avait choisi comme quartier d'été lorsque les chaleurs dans la plaine à Delhi étaient trop insupportables entre mars et septembre à peu près. Donc il faut imaginer au mois de mars la bonne société anglo-britannique avec tous ses civil servants, c'est-à-dire son personnel administratif, qui quittait Delhi en train, autre véhicule, puis prenait le petit train qui les emmenait jusqu'à Calcutta et qui traversait, qui mettait 5 heures à faire une centaine de kilomètres. Et ensuite, la montée se faisait à dos d'animaux variés dans divers véhicules. Et toute cette administration s'installait, et toute la bonne société avec elle, s'installait à Simla, environ à 1500-2000 mètres d'altitude, pendant 6 mois. Alors là-bas, une vie totalement artificielle, reprenait vie en quelque sorte après 6 mois de calme. Il y avait la maison du vice-roi. Il y avait l'artère principale qu'on appelait The Mall, où l'on trouvait tous les commerces et la bibliothèque de style Tudor, le petit théâtre dont je parle, le Gaiety Theatre. Et tous ces bâtiments et ces maisons de style assez britannique que s'étaient fait construire les Britanniques qui y résidaient. Parce qu'évidemment, ils étaient plein de nostalgie pour leur Angleterre natale et ces petits cottages leur permettaient de se réfugier dans un petit morceau d'Angleterre assez improbable. Donc c'était un univers extraordinairement mondain où venait aussi la bonne société indienne. Il y avait plein de petits maharajas qui y avaient des résidences secondaires. Il faut imaginer quelque chose comme Deauville ou Cabourg, mais qui devenait une capitale de l'Empire britannique, enfin de l'Inde britannique pendant quelques mois.
Et ce qui correspond peut-être effectivement à ce que beaucoup de lecteurs ont dans la tête, hein, cette Inde bercée par les romans de Kipling, par exemple, que vous évoquez, hein, dans le roman, par le cinéma
Kipling
aussi.
Vous parlez
de, voilà, vous parlez de Shashi Kapoor, de James Ivory aussi au cinéma. Est-ce que vous avez, pour écrire ce roman, est-ce que vous vous êtes bercé, laissé bercer justement par cette littérature et par ce cinéma-là?
Oui, d'ailleurs je l'évoque dans le roman et c'était justement ma façon de m'approcher d'Amrita et de son monde sans y aller directement. Lorsqu'on les voit, on voit les films de James Ivory avec ce merveilleux acteur que vous évoquiez, Shashi Kapoor, lorsqu'on lit Kipling, on est évidemment transporté là-bas de manière poétique, romanesque. Et en même temps, ce sont des témoignages aussi, les témoignages de Kipling sont des témoignages de vie vécue là-bas. Il était au plus près, alors il a vécu avant elle, quelques années avant elle, bien sûr, mais il nous a restitué l'Inde de son époque de façon extraordinaire.
Vous écrivez, page 112 du roman, et là c'est évidemment donc votre narratrice, votre double littéraire Iris qui parle, je cite, « Je sens confusément qu'il ne faut pas que je m'efforce de trop comprendre l'Inde. Le mystère grandiose de ce pays unique est inexplicable, trop vaste, trop complexe, trop riche et trop violent. Entre l'Inde et moi doit perdurer le voile qui dissimule ses arcanes. » C'est ce que vous pensez, Patricia Reznikov?
Oui, je le pense profondément. Ça aurait été, un peu un peu idiot finalement de prétendre que je connaissais l'Inde, de me renseigner sur ce pays, cette culture de manière trop livresque, trop... Je pense qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus vivant. Ce qui était intéressant, je crois, dans cette aventure romanesque, c'était que je vienne avec mon bagage à moi, ma méconnaissance de ce pays, et que je l'apprivoise par le biais de la vie d'Amrita, par le biais de recherches, bien sûr, les films, les romans. C'était la confrontation de mon non-savoir et de sa vie que je trouvais intéressant. Au fond, c'est un exercice de fascination et d'admiration de ma part.
Alors, il y a le regard qu'Amrita porte sur ses contemporains indiens, puisqu'elle se balade dans plusieurs coins de l'Inde de son époque, évidemment, et elle regarde l'Inde avec son regard d'artiste. Elle est très très sensible, notamment aux couleurs, et vous-même, vous évoquez ces couleurs, Patricia Reznikov, et vous évoquez aussi à plusieurs reprises sa façon de choisir son sari, autrement dit, sa façon de choisir les tenues qu'elle va porter dans telle ou telle circonstance. Pourquoi avez-vous donné autant d'importance à ce choix de vêtements?
Parce qu'il faut s'imaginer que dans la première partie de sa vie, Amrita est une occidentale, c'est une hongroise qui a vécu à Paris aussi. Et lorsqu'elle revient définitivement en Inde en 1934, tout à coup, elle se prend d'un amour extraordinaire pour cette seconde patrie. Elle décide qu'elle va insuffler une nouvelle vie dans l'art de ce pays, et elle se décide tout à coup indienne. Elle se met à avoir un certain mépris pour la, comment dire, la bonne société anglo-indienne, et elle décide qu'elle ne va plus porter que des saris. Et c'est un choix, comment dire, c'est bien plus qu'un choix frivole ou vestimentaire, c'est un choix profond qui s'opère en elle. Or, les saris sont ces tissus extraordinaires, de couleurs extraordinairement variées, avec des broderies ou des miroirs ou des petits détails brillants. Et elle va s'approprier ce tissu et en faire sa marque de fabrique. Alors, il faut imaginer ensuite que lorsqu'elle se rendra dans des dîners mondains ou dans des situations où elle aurait dû normalement apparaître en occidental, elle sera habillée de ses saris avec ses bijoux indiens. Et c'est une déclaration très forte de sa part.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Patricia Reznikov pour son roman Amrita, paru aux éditions Flammarion. Nous sommes page 265 et c'est votre narratrice Iris qui parle.
J'aime beaucoup Durga. Elle est la Shakti du dieu Shiva, sa puissance féminine. Elle est l'inaccessible qui protège les hommes des démons. Montée sur son tigre noir ou sa lionne, elle brandit dans ses 10 bras les armes que lui ont donné les dieux pour accomplir son travail, débarrasser les cieux du démon Mahishasura, le trident de Shiva, l'épée et le bouclier de Yama, la foudre d'Indra, la cloche de l'éléphant blanc Eravata, l'arc et la flèche de Surya, la lance de Kumara, le disque de Vishnu, la conque de Vaya, la hache de Chandra et le nœud coulant de Varuna. Avec l'aide de Kali, l'autre guerrière, elle tue le démon et ramène la paix sur terre. Kali, la langue tirée grimaçante, avec son couteau sanglant, son collier de crâne et la tête coupée qu'elle tient à la main, mère terrible et carnassière, effraie. Mais Durga, la mère guerrière qui défend et protège, me rassure. Chacune de ces armes représente une qualité que chacun d'entre nous doit acquérir pour terrasser nos propres pulsions mauvaises. Quelle meilleure éducatrice y a-t-il ? Contre la colère, la rancune, l'avidité, l'égoïsme, la violence, il faut la connaissance de soi, le détachement, la générosité, le discernement, la sagesse. Lequel d'entre nous peut se targuer de posséder tout cela ? Je sais quelle relation Amrita entretenait avec les dieux hindous. Après tout, elle était judéo-chrétienne et sikh et agnostique. A-t-elle seulement eu le temps de creuser sa veine spirituelle, à la recherche d'un filon intime, d'une lumière ? C'est une nécessité qui vient souvent sur le tard, une corde qui vibre au passage du temps et des épreuves. Pourtant, des épreuves, elle en a connues. J'imagine comme Durga lui aurait été utile et signifiante. Brandissant ses 10 armes, agitant ses 10 bras, elle l'aurait aidé à se frayer un chemin au sein de son époque, parmi ses contemporains, parmi les siens. Elle l'aurait secondée sur la route de la création. Route difficile s'il en est, voie ouverte à l'époque aux seuls hommes, où le discernement, la poésie, le courage et le talent sont les seuls viatiques. contre les guerres de l'Europe qui ont présidé à sa naissance, les révolutions en marche dans son Inde d'adoption et les tensions quotidiennes entre ses peuples, et contre la difficile condition d'être une femme, et une femme peintre de surcroît, il lui aurait fallu Durga, une guerrière comme elle. Car c'est bien parce qu'elle était une femme qu'elle est devenue celle qu'elle est devenue.
Et c'est vrai, hein, Patricia Reznikov, que le destin de la guerrière Amrita Shergill croise les soubresauts de l'histoire du XXe siècle. Il commence à la veille de la Première Guerre mondiale, qui aura de lourdes conséquences sur l'Europe centrale et sur son pays natal, la Hongrie, et il se termine au tout début de la Seconde. On sent hein, d'ailleurs dans la dernière partie du livre les aspirations nationalistes et décolonisatrices du sous-continent indien. D'ailleurs, Amrita croise Gandhi, et à vous lire, elle a fait un petit peu plus que croiser Nehru.
Oui, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé entre eux. Ils ont certainement eu une amitié, ils se sont écrits. Ses parents, d'ailleurs, c'est assez amusant, l'auraient bien vu en épouse de Nehru, ce qu'elle a absolument refusé. C'est vrai qu'elle a traversé la première moitié du XXe siècle. Elle a connu la guerre en Hongrie, puisqu'elle est née en 1913. Elle en est partie pour connaître quelques années de tranquillité à Paris, puis en Inde. Et puis son destin, de nouveau, a été pris dans les tourbillons de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle est partie avec son mari en 1938 retrouver la Hongrie. Elle a dû en repartir très vite, de nouveau, car la guerre menaçait. Et puis, c'est les quelques dernières années, je crois 7 ans qu'il lui restait à vivre en Inde, ont été toutes teintées de ce nationalisme et de cette volonté d'indépendance de l'Inde, de ces remous qui commençaient partout. En effet, elle a croisé Gandhi à un moment, elle a écouté parler, et lorsqu'elle s'est réfugiée à Lahore, qui est aujourd'hui au Pakistan, mais qui à l'époque était la grande capitale culturelle du Pendjab, en Inde, lorsqu'elle s'est réfugiée à Lahore dans les dernières années de sa vie, elle était aux premières loges pour sentir, pour voir ces remous qui allaient donner naissance dans les larmes et le sang à l'indépendance de l'Inde.
Et c'est à Lahore que devait se tenir sa première grande exposition personnelle, exposition à laquelle elle n'assistera pas, puisqu'elle va mourir en 1941 à l'âge de 28 ans. Elle tombe gravement malade, subitement, et aujourd'hui encore, finalement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
On pense savoir, on pense qu'il s'agit d'un avortement mal fait, un énième avortement mal réalisé. À l'époque, évidemment, c'était un sujet absolument tabou en Inde, et même d'ailleurs ailleurs. C'est pour cela, sans doute, qu'on a laissé croire qu'il s'agissait d'un empoisonnement alimentaire. En réalité, bien sûr, il s'agissait d'un avortement.
Oui, parce que vous-même, dans le livre, vous le laissez entendre, mais vous ne le dites pas très clairement. Vous évoquez d'ailleurs tout un ensemble d'hypothèses.
Oui, c'est-à-dire je me fais l'écho de ce qu'on a dit, de ce qu'on a pu écrire, de ce que sa famille a pu dire. Mais je laisse quand même pointer la vérité qui est celle-là, je pense.
Pour vous, Patricia Reznikov, Amrita, c'est d'abord une peintre, d'abord une guerrière ou d'abord une femme ?
Ce sont les trois choses à la fois, bien sûr. Je crois qu'à l'époque, pour être une femme et être aussi libre qu'elle l'a été, il fallait être une guerrière. Elle a su être très tôt dans sa vie, c'est assez surprenant. Il est évident que c'est son être de femme qui fait son génie, sa couleur. Si elle avait été un homme, elle n'aurait pas du tout vécu de la même manière et le tout aurait été beaucoup plus banal. Le fait de réussir à être une femme à l'époque où elle a vécu, le fait de parvenir à être une peintre reconnue très tôt, en tout cas à l'école des Beaux-Arts à Paris, puis en Inde où elle commençait vraiment à être connue, c'est vraiment la marque d'une espèce de destin extraordinaire pour une femme de l'époque.
Alors vous parliez des Beaux-Arts, c'est vrai qu'il n'y a aucune trace d'elle dans les archives des Beaux-Arts, ça c'est très surprenant hein, effectivement de voir le nombre de grands artistes qui sont passés par cette école à laquelle vous étiez vous-même attaché puisque vous avez fait les Beaux-Arts de Paris. On a l'impression que c'est une école qui garde très très peu de traces du passage de ces futurs grands.
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, en fait. En réalité, tout ce qui est antérieur à 1960, je crois, a été versé aux archives nationales. C'est-à-dire qu'au fond, si vous allez aux Beaux-Arts aujourd'hui en tant que chercheur, vous ne trouverez que ce qui concerne les artistes postérieurs à 1960. Donc tout ce qui est aux archives nationales, évidemment, est virtuellement sans doute trouvable, compulsable. Il se trouve que je n'ai pas poussé les recherches assez loin, parce qu'assez rapidement, je me suis aperçue que cette recherche virtuelle ne m'intéressait pas. D'abord, je n'ai rien trouvé dans un premier temps, il m'aurait sans doute fallu l'aide d'un chercheur, et je me suis aperçue que cette disparition d'Amrita des archives m'arrangeait assez, c'est-à-dire que j'allais devoir la rencontrer par un autre biais. Donc j'ai fantasmé sur ce que j'aurais pu trouver sur elle si j'avais trouvé des choses aux Beaux-Arts, je le dis à un moment, des croquis, peut-être quelques photos, peut-être même un peigne d'écailles qui lui aurait appartenu, mais en réalité, elle avait quand même virtuellement disparu, et j'ai préféré la chercher par d'autres moyens.
Eh bien, en tout cas, nous on l'a trouvé à travers votre roman. Merci beaucoup, Patricia Reznikov. Amrita, je le rappelle, est paru aux éditions Flammarion.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Vous l'avez compris, si beaucoup de projets sont suspendus dans le monde culturel à cause du Covid-19, ce n'est pas pour autant que tous les projets sont à l'arrêt. Kpenaï Traoré nous parle aujourd'hui d'un projet de l'association Showbiz, BIS comme BIS, un projet qui vise à redonner une seconde vie à des matériels de scène en faisant bénéficier d'autres acteurs culturels qui en ont besoin sur le continent africain.
Rideaux, projecteurs, fauteuils, décors, costumes, donner une seconde vie à ce matériel de scène jugé obsolète et qui finit le plus souvent entassé dans les coulisses des théâtres ou deviennent des déchets encombrants en Europe. Claire Nini est journaliste culturelle et présidente de l'association Showbiz qui porte le projet.
J'ai eu la chance de travailler un peu à la fois sur le continent et en France, de voir que d'un côté, il y a des talents sur le continent africain, mais qui ne sont pas mis en lumière parce qu'il n'y a pas forcément le matériel technique et professionnel de l'autre côté. En Europe, il y a énormément de matériel et énormément de gaspillage dans le monde du spectacle avec du matériel professionnel qui n'est pas utilisé, alors qu'il marche encore. Il y a vraiment aussi tout un volet écologique qui est très important dans notre projet.
Qu'en est-il de la qualité de ce matériel? Alors, vous assurez que c'est de la bonne qualité, c'est pas du matériel
à
jeter?
On récupère uniquement du matériel qui est en bon état de marche, on fait très attention à ça, il n'est pas question de réparer des choses, on n'envoie que des choses qui marchent. Nous, notre but, c'est d'envoyer du matériel professionnel qui marche pour mettre en valeur les artistes.
Un projet écologique, culturel, mais aussi politique.
Le projet, il est aussi très important parce que justement, Showbiz, c'est aussi créer des théâtres 100% recyclés, mais aussi 100% indépendants, avec à leur tête des ambassadeurs africains. Et ça, c'est important parce qu'on veut pas reproduire ce qui se passe aujourd'hui avec les instituts français. Et ça, c'est quand même regrettable que 60 ans après les indépendances, tous les lieux de vie et de culture dans ces pays africains soient encore liés aujourd'hui, vraiment très très liés à l'histoire des colonisations. Donc on veut aussi mettre un grand coup dans notre action de décoloniser les arts, faire en sorte que les artistes soient aujourd'hui indépendants, et cette indépendance-là passe par des lieux alternatifs.
À ce stade, Showbiz a déjà reçu ses premiers dons de la part d'associations, de compagnies ou de salles de spectacle comme le Théâtre National de Chaillot à Paris. Écoutons Didier Deschamps, son directeur.
On a envoyé plusieurs lieux jeux de tapis de scène. Bien souvent, ces artistes qui ont énormément d'idées, énormément de talents, produisent des spectacles qui parfois peuvent avoir du mal à tourner dans certains réseaux, en particulier dans nos pays européens par exemple, parce que ils ne répondent pas à un certain nombre de critères sur le plan technique. Et que si on leur donne la possibilité de travailler avec ces outils techniques, eh bien c'est beaucoup plus évident de pouvoir les présenter dans nos salles.
Dans la première phase du projet, un centre chorégraphique au Cameroun, la Brèquerie, qui ouvrira ses portes à la fin de cette année, sera équipé. Jean Bock, chorégraphe et futur directeur artistique de la Brèquerie.
Cet espace a besoin de ce matériel parce que moi, comme des potes et comme d'autres qui sont restés la nouvelle génération aujourd'hui, ils continuent toujours à danser sur du goudron, dans des coins pas adéquats, et voilà, c'est un peu ça.
Deux conteneurs remplis de matériel sont déjà disponibles, mais le plus difficile, selon les initiateurs du projet, c'est le coût du transport pour l'acheminement vers le continent africain. Pour cela, un financement participatif a été lancé pour récolter le montant de 5 000 euros. Le projet a déjà de nombreux soutiens, dont une marraine, l'artiste-chanteuse camerounaise Karetz Fotso.
Penaï Traoré pour VMDN, une pause et le journal sur RFI. On se retrouve demain et vous m'en direz des nouvelles.
Tout à l'heure sur